L'article suivant sera étudié la semaine commençant le 28 janvier 2013. Réussissez votre vie. Voici le verset thème de l'étude. Tu feras réussir ta voie et tu agiras sagement. Josué 1, verset 8. Pendant la lecture de cet article, cherchez les réponses aux questions suivantes. Salomon a-t-il réussi sa vie? Pourquoi peut-on dire que Paul a réussi sa vie? Comment réussir votre vie? Paragraphes 1 et 2, question A. Pour beaucoup, qu'est-ce que la réussite? Question B. Comment savoir quelle est votre vision de la réussite? Réussir sa vie, qu'est-ce que cela veut dire? Posez la question autour de vous et vous obtiendrez toutes sortes de réponses. Pour beaucoup, ce qui compte, c'est la réussite financière, professionnelle ou scolaire. Pour d'autres, c'est un bon relationnel avec leur famille, leurs amis ou leurs collègues. Quant à certains serviteurs de Dieu, ils associent la réussite aux responsabilités dans la congrégation ou aux bons résultats dans le ministère. Quelle est votre vision de la réussite? Pour en avoir une idée, mettez par écrit le nom de quelques personnes qui, d'après vous, ont réussi et que vous admirez et respectez plus que d'autres. Quel est leur point commun? Sont-elles riches ou célèbres? Ont-elles une position en vue? Votre réponse pourrait bien révéler ce que vous avez dans le cœur, c'est-à-dire ce qui peut influencer profondément vos décisions et vos objectifs. Paragraphe 3, question A. Que devait faire Josué pour que sa voie réussisse? Question B. Qu'allons-nous considérer dans cet article? Le plus important, c'est que nous réussissions du point de vue de Jéhovah. En effet, nous n'obtiendrons la vie éternelle qu'à condition d'avoir son approbation. Lorsqu'il a confié à Josué la lourde responsabilité de conduire les Israélites en terre promise, Jéhovah lui a demandé de lire la loi mosaïque jour et nuit et de s'appliquer à y obéir. « Alors tu feras réussir ta voie, et alors tu agiras sagement », a-t-il ajouté. Josué 1, versets 7 et 8. Nous le savons, Josué a vraiment fait réussir sa voie. Mais comment déterminer si notre vision de la réussite correspond à celle de Dieu? Considérons la vie de deux personnages bibliques. Salomon a-t-il réussi sa vie? Paragraphe 4, question. Pourquoi peut-on dire que Salomon a réussi? Sous bien des rapports, Salomon a brillamment réussi. Pourquoi? Parce que pendant des années, il a craint Jéhovah et lui a obéi. En retour, il a été abondamment béni. Rappelons-nous que lorsque Jéhovah lui a proposé de formuler une requête, le roi a demandé de la sagesse pour diriger le peuple. Dieu lui a alors accordé sagesse et richesse. Nous lisons en 1 roi 3, versets 10 à 14, « Et la chose plut aux yeux de Jéhovah, parce que Salomon avait demandé cette chose. Dieu lui dit encore, « Parce que tu as demandé cette chose, et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, que tu n'as pas demandé pour toi la richesse, que tu n'as pas demandé l'âme de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi l'intelligence pour entendre les affaires judiciaires, écoute, je vais vraiment faire selon tes paroles. » Écoute, je vais vraiment te donner un cœur sage et intelligent, de sorte que, quelqu'un comme toi, il n'y en aura pas eu avant toi, et qu'après toi, il ne se lèvera pas quelqu'un comme toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, oui, je vais te le donner, et la richesse et la gloire, de sorte qu'il n'y aura personne comme toi parmi les rois durant tous tes jours. Et si tu marches dans mes voies, en gardant mes prescriptions et mes commandements, tout comme a marché David ton père, oui, je prolongerai aussi tes jours. » La sagesse de Salomon était plus étendue que la sagesse de tous les Orientaux et que toute la sagesse de l'Égypte. Sa renommée s'est répandue dans toutes les nations d'alentour. 1 roi 4, versets 30 et 31. Pour ce qui est de sa richesse, il recevait tous les ans environ 22 tonnes d'or. Il excellait en diplomatie, dans la construction et dans le commerce. Pour tout dire, tant qu'il a eu l'approbation de Dieu, Salomon a réussi ce qu'il entreprenait. Paragraphe 5, question. Qu'a conclu Salomon au sujet de la réussite? Salomon était loin de croire que la réussite et le bonheur étaient réservés à ceux qui étaient riches ou en vue. Témoin ce qu'il a écrit dans le livre de l'Ecclésiaste. « J'ai appris qu'il n'y a rien de mieux que de se réjouir et de faire le bien durant sa vie. Et aussi que tout homme mange, oui, qu'il boive, et qu'il voit le bien pour tout son dur travail. C'est le don de Dieu. » Ecclésiaste 3, versets 12 et 13. Salomon avait compris que les plaisirs dont il parle ici prennent tout leur sens pour qui a l'approbation de Dieu, pour qui a de bonnes relations avec lui. Il a déclaré à juste titre, « La conclusion de la chose, tout ayant été entendu, crains le vrai Dieu et garde ses commandements, car c'est là toute l'obligation de l'homme. » Ecclésiaste 12, verset 13. Paragraphe 6, question. Comment la vie de Salomon nous aide-t-elle à déterminer ce qu'est la vraie réussite? Salomon a craint Dieu durant des années. Nous lisons en 1 Roi 3, verset 3, qu'il continua d'aimer Jéhovah en marchant dans les ordonnances de David son père. Ne s'agit-il pas là d'une véritable réussite? Guidé par Dieu, Salomon a bâti un temple magnifique, dédié au culte pur, et il a rédigé 3 livres de la Bible. Nous n'en ferons bien sûr jamais autant. Cependant, la vie qu'il a menée tant qu'il a été fidèle à Dieu nous montre comment déterminer ce qu'est la vraie réussite et y parvenir. Souvenons-nous d'une idée qu'il a soulignée sous inspiration divine. Ce que la plupart des gens considèrent comme des critères de réussite est vanité. Courir après la richesse, le savoir, la célébrité ou le pouvoir revient effectivement à poursuivre le vent. N'avez-vous pas constaté que beaucoup de ceux qui aiment l'argent n'en ont jamais assez et qu'ils s'inquiètent souvent pour ce qu'ils possèdent, sans compter qu'un jour leurs biens appartiendront à d'autres? Nous lisons en Ecclésiaste 2, versets 8 à 11, « J'ai aussi amassé pour moi de l'argent et de l'or, et des biens qui sont particuliers au roi et au district administratif. Je me suis fait des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils des humains, une dame, oui, des dames. Je suis devenu plus grand et je me suis accru plus que quiconque était avant moi à Jérusalem. D'autre part, ma sagesse me restait. Et tout ce que mes yeux ont demandé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur était joyeux à cause de tout mon dur travail, et cela devint ma part dans tout mon dur travail. Et moi, je me suis tourné vers toutes mes œuvres qu'avaient faites mes mains, et vers le dur travail auquel j'avais travaillé dur pour l'exécuter. Et voyez, tout était vanité et poursuite de vent, et il n'y avait rien d'avantageux sous le soleil. » Verset 17. « Et j'ai haï la vie, parce que l'œuvre qui s'est faite sous le soleil était funeste à mon point de vue, parce que tout était vanité et poursuite de vent. » Nous lisons en Ecclésiaste 5, versets 10 à 12, « Celui qui aime l'argent ne se rassasira pas d'argent, ni celui qui aime la fortune du revenu. Cela aussi est vanité. Quand les bonnes choses se multiplient, ceux qui les mangent se multiplient bel et bien. Et quel avantage y a-t-il pour leur grand propriétaire, sinon qu'il les regarde de ses yeux? D'où est le sommeil de celui qui sert, qu'il mange peu ou beaucoup? Mais l'abondance du riche ne le laisse pas dormir. » Paragraphes 7 et 8, question. Pourquoi Salomon est-il devenu infidèle et quelles en ont été les conséquences? Malheureusement, Salomon a cessé d'obéir à Jéhovah. La Bible dit à son sujet, « Il arriva au temps de la vieillesse de Salomon que ses femmes avaient incliné son cœur à la suite d'autres dieux, et son cœur ne fut pas complet à l'égard de Jéhovah son Dieu, comme le cœur de David son père. Salomon se mit à faire ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah. » 1 Roi 11, versets 4 à 6. Exprimant sa désapprobation, Jéhovah a annoncé à Salomon, « Parce que tu n'as pas gardé mon alliance et mes ordonnances, que je t'avais imposées comme un ordre, je ne vais pas manquer de t'arracher le royaume, et je le donnerai bel et bien à ton serviteur. » 1 Roi 11, verset 11. Quel gâchis! Alors que Salomon avait réussi sa vie sous bien des rapports, il a fini par décevoir Jéhovah. Il a échoué dans le domaine le plus important qui soit, la fidélité à Dieu. Dès lors, demandons-nous Suis-je déterminé à tirer leçon de la vie de Salomon pour réussir la mienne ? Paul a vraiment réussi sa vie. Paragraphe 9, question. D'après les critères humains, Paul a-t-il réussi sa vie ? Paul a mené une vie bien différente de celle du roi Salomon. Ni trône en ivoire, ni festin avec des rois, mais plutôt la faim, la soif, le froid, la nudité. Après avoir accepté Jésus comme Messie, Paul a perdu sa position honorable dans le judaïsme. Les chefs religieux se sont mis à le haïr. Il a été emprisonné, fouetté, battu et lapidé. Il n'a pas caché que lui et ses compagnons ont été insultés, persécutés et diffamés. D'où sa conclusion : nous sommes devenus comme les ordures du monde, le rebut de toutes choses, jusqu'à maintenant. 1 Corinthiens 4, versets 11 à 13. Paragraphe 10, question. Pourquoi pouvait-il sembler que Paul gâchait ses chances de réussite ? Pourtant, d'un point de vue humain, le jeune Paul, appelé Saul, était promis à la réussite. Apparemment fils de bonne famille, il était l'élève de Gamaliel, un enseignant respecté. Il faisait de plus grands progrès dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge, comme il l'écrira plus tard. Galates 1, verset 14. Ajoutons qu'il maîtrisait l'hébreu et le grec, et que, grâce à sa citoyenneté romaine, il jouissait de privilèges et de droits très recherchés. S'il n'avait pas tourné le dos à la vie qui s'offrait à lui, il aurait sans doute obtenu une position en vue et la sécurité financière. Pourquoi donc a-t-il fait des choix qui, pour son entourage et peut-être même sa famille, étaient pure folie ? Paragraphe 11, question A. Qu'est-ce que Paul tenait en haute estime ? Question B. À quoi Paul était-il déterminé et pourquoi ? Aux yeux de Paul, l'approbation du Dieu qu'il aimait comptait davantage qu'une position en vue ou la richesse. Ayant acquis la connaissance exacte de la vérité, il tenait en haute estime ce qui ne présente aucun intérêt pour la plupart des gens. Citons la rançon, le ministère chrétien et l'espérance de vivre au ciel. Paul avait compris qu'une grande question était en jeu. Satan s'était prétendu capable de détourner les humains de Dieu. Quelles que soient les épreuves qu'il rencontrerait, Paul était déterminé à rester fidèle, à persévérer dans le culte pur. Aujourd'hui, rares sont ceux qui se fixent cet objectif pour réussir leur vie. Paragraphe 12, question. Pourquoi avez-vous choisi de mettre votre espérance en Dieu ? Avons-nous la même détermination que Paul ? Rester fidèle n'est pas toujours facile, mais nous savons que cela nous vaut la bénédiction et l'approbation de Jéhovah, les clés de la vraie réussite. Notre fidélité nous apporte des bienfaits dès à présent et nous en apportera bien d'autres à l'avenir. Nous lisons en Marc 10, versets 29 et 30, Jésus dit, « Vraiment, je vous le dis, personne n'a quitté maison ou frère ou sœur ou mère ou père ou enfant ou champ à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, qui ne reçoive au centuple, maintenant, dans cette période-ci, maison et frère et sœur et mère et enfant et champ avec des persécutions, et dans le système de choses à venir, la vie éternelle. » Nous avons donc d'excellentes raisons de mettre notre espérance non pas dans des richesses incertaines, mais en Dieu qui nous procure richement toutes choses pour que nous en jouissions. Ce faisant, nous amassons en lieu sûr un beau fondement pour l'avenir, afin de saisir fermement la vie véritable. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Et dans 100 ans, 1000 ans et plus encore, nous serons en mesure d'affirmer « J'ai vraiment fait les choix qu'il fallait pour réussir ma vie ». Là où est ton trésor ? Paragraphe 13, question. Quelle recommandation Jésus a-t-il faite ? Jésus a fait cette recommandation. Cessez de vous amasser des trésors sur la terre, où mythe et rouille rongent et où les voleurs percent et dérobent. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où ni mythe ni rouille ne rongent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, versets 19 à 21. Paragraphe 14, question. pourquoi n'est-il pas sage de s'amasser des trésors sur la terre? Les trésors qu'une personne peut amasser sur la terre ne se résument pas à de l'argent. Ils peuvent inclure le prestige, la célébrité ou le pouvoir, autant de choses dont Salomon a parlé et qui ont un lien avec la réussite d'un point de vue humain. D'ailleurs, le message de Jésus rejoint celui de Salomon dans le livre de l'Ecclésiaste. Les trésors amassés sur la terre ne sont pas éternels. Vous l'aurez sûrement constaté, ils sont périssables et nous échappent facilement. Commentant la recommandation de Jésus, le théologien Frédéric Delbrunner a écrit « On le sait bien, la célébrité est éphémère. Le héros du moment sera tombé dans l'oubli la saison prochaine. Qui fait fortune cette année fera banqueroute l'année prochaine. » Jésus aime les humains. Il cherche à leur épargner le désespoir qui accompagne inévitablement la gloire évanescente, la gloire qui ne dure pas. Jésus ne veut pas que ses disciples soient déçus. La plupart des gens seront d'accord avec ces idées. Mais combien en tiennent compte dans leur vie? Qu'en est-il de vous? Paragraphe 15, question. Quel genre de réussite devrions-nous chercher? Certains chefs religieux prêchent qu'il est mal de vouloir réussir et qu'il ne faut surtout pas fournir d'efforts dans ce sens. Remarquons toutefois que Jésus n'est pas si catégorique. Il incite ses disciples à rediriger leurs efforts en amassant des trésors impérissables dans le ciel. Nous devrions avant tout chercher à réussir notre vie du point de vue de Jéhovah. Les paroles de Jésus nous rappellent que c'est à nous de choisir nos priorités. Et le fait est que nous avons pour priorité ce qui nous tient à cœur. Paragraphe 16, question. De quoi pouvons-nous être convaincus? S'il nous tient à cœur de faire plaisir à Jéhovah, nous pouvons être sûrs qu'il pourvoira à nos besoins. Il permettra peut-être que, comme Paul, nous souffrions temporairement de la faim ou de la soif. Mais soyons convaincus qu'il est sage de suivre ce conseil de Jésus. Ne vous inquiétez jamais, disant « qu'allons-nous manger » ou « qu'allons-nous boire » ou « qu'allons-nous mettre ». Ce sont là, en effet, toutes les choses que les nations recherchent avidement. Car votre Père Céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Continuez donc à chercher d'abord le royaume et sa justice, et toutes ces autres choses vous seront ajoutées. Matthieu 6, versets 31 à 33. La réussite du point de vue de Dieu. Paragraphes 17 et 18, question A. De quoi dépend la vraie réussite? Question B. De quoi ne dépend pas la réussite? Soyons-en bien conscients. Notre réussite ne dépend pas de nos réalisations ou de notre position dans ce monde. Précisons que la vraie réussite ne se mesure pas non plus aux responsabilités dans l'organisation de Jéhovah. Néanmoins, celle-ci découle généralement de deux qualités qui sont le fondement de la vraie réussite, notre obéissance et notre fidélité à Dieu. D'ailleurs, ce qu'on cherche chez les intendants, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle. 1 Corinthiens 4, verset 2. Pour rester fidèle, il nous faut de l'endurance. Celui qui aura enduré jusqu'à la fin, a affirmé Jésus, celui-là sera sauvé. Matthieu 10, verset 22. N'êtes-vous pas d'accord pour dire que celui qui sera sauvé aura vraiment réussi sa vie? En méditant sur ce qui précède, nous comprendrons que la fidélité à Dieu n'a rien à voir avec le prestige, l'instruction, une bonne situation financière, ou une position sociale élevée. Elle n'est pas non plus une question d'intelligence, de talent ou de capacité. Quelle que soit notre situation, nous pouvons rester fidèles à Dieu. Au premier siècle, certains chrétiens étaient riches, d'autres pauvres. Il était approprié que Paul ordonne aux plus fortunés de travailler au bien, d'être riches en belles œuvres, d'être généreux, prêts à partager. Mais tous, riches comme pauvres, pouvait saisir fermement la vie véritable. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Il en va de même de nos jours. Nous avons tous la possibilité et la responsabilité d'être fidèles et riches en belles œuvres. Si nous le sommes, nous réussirons notre vie du point de vue de notre Créateur et aurons la joie de savoir que nous lui plaisons. Paragraphe 19, question. À quoi sommes-nous déterminés? Nous ne maîtrisons pas forcément la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais nous pouvons maîtriser notre façon de la gérer. Efforçons-nous de rester fidèles en toutes circonstances. Cela en vaut la peine. Ne doutons pas que Jéhovah nous bénira abondamment dès maintenant et pour l'éternité. N'oublions jamais l'encouragement que Jésus adresse à chaque chrétien oint. Montre-toi fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Révélation 2, verset 10. C'est là que réside la vraie réussite. Après avoir écouté cet article, que répondriez-vous? Salomon a-t-il réussi sa vie? Pourquoi peut-on dire que Paul a réussi sa vie? Comment réussir votre vie? Fin de l'article.